presbytre, là.
Atmosphère. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonjour.
Bonjour,
bonsoir, Carrie. Carrie du Maine.
La self-made man. Enfin, woman. Donc, nous sommes donc à ATC, l'émission
donc,
qui vous plaît. Oui, tout à fait.
Avec donc.
Sur 107.5.
www.rdwa.fr.
Ouais, si tu veux écouter nos émissions en broadcast. Alors. Broadcast.
Ah, tu me prends en Bretagne.
Alors, tu peux en Bretagne également.
Oui, tout à fait. Et même en Chine, si tu veux. Voilà, c'est pas une émission made in China, mais c'est tout comme. Alors aujourd'hui, chers auditeurs assidus de ATC, nous allons parler de Stephen King. Qui est Stephen King?
C'est un auteur américain, mais en 40, quelque chose comme
ça. En 47.
47.
Oui, à Portland.
Spécialisé dans l'épouvante, l'effroi, légèrement science-fiction de temps en temps.
Oui.
Des fois très héroïque fantasy.
Oui, c'est vrai aussi.
Et toujours complètement farfelu.
Voilà, et qui aime beaucoup son état du Maine.
Du Maine, voilà. Oui.
Surnommé le maître de l'horreur.
Oui.
T'as fait des recherches sur Wikipédia?
Non, sur...
Non, on ne cite pas de marque.
On ne cite pas de site.
Voilà.
Donc c'est
on cite pas
on
de site.
C'est traduit dans 33 langues.
Alors on peut dire pourquoi je suis là éventuellement. Je suis
oui.
là parce que je suis une fervente lectrice de Stephen King et que je connais pas mal de ses bouquins, même si j'ai pas pu tout lire, il y en a beaucoup trop.
Est-ce que
l'instant.
C'est toi qui l'as séquestré un moment pour qu'il écrive une suite de...
Tout à fait.
C'est ça.
Mais tu vois, dans le film, ils m'ont pas arrangé niveau physique. Hein.
Oui, mais ça c'est normal. Ça, voilà. C'est normal.
C'est Cathy, ils sont prêts.
Annie, c'est Annie.
Annie, oui.
Oui, mais l'actrice, c'est Cathy.
Ah. Oui.
Et donc voilà, et donc j'ai vu un certain nombre de ses films aussi qui vont avec.
Oui.
Et voilà pourquoi vous m'avez invité.
Voilà, c'est ça. Tu es ici en tant que spécialiste Stephen King.
Tout
voilà,
à fait.
Tu as reçu ton diplôme dans un paquet surprise.
C'est ça, dans une pochette spéciale fille rose.
Oui.
Non, j'ai l'impression de faire les suglaces.
Alors,
hyper radiophonique comme.
Hugo, est-ce que tu voulais dire quelque chose par
oui,
hasard?
Oui, par rapport à l'auteur, avant de parler de son œuvre et surtout de son œuvre cinématographique. Enfin,
non,
pas dû à lui-même.
Madame a tout dit.
A tout dit.
Oui, donc on va dire que ça a commencé depuis les années 70, de nombreuses œuvres de Stephen King.
King, ouais.
Merci. Ont été portées à l'écran, donc avec plus ou moins de.
Talent.
Bonheur. Certains ne sont que des calques explicites, hein, je dirais, de
oui.
ces romans. D'autres témoignent d'une véritable...
Il n'arrive pas à redire ça. c'est ce dur. Moment-là.
Oui, d'une véritable ambition créatrice.
N'est-ce pas? Donc oui, il y a eu des choses réussies.
Oui.
Il y a eu des choses réussies. Et puis il y a eu des choses transformées en films gore à 2,5 francs, très sanglants, où toute la... Parce que Stephen King, il insiste vachement sur la psychologie dans ses bouquins. Il y a déjà souvent toute une partie du livre qui se passe dans un univers normal, en fait, qui raconte la vie quotidienne d'un personnage. Et ensuite, l'événement perturbateur et fantastique arrive dans le récit. Mais toute cette partie-là du récit classique est déjà excellente à lire. Vraiment basé sur la psychologie du personnage. Dans les films où ça, voilà, c'est sanglant, etc., on oublie un peu tout ce côté-là hyper psychologique. C'est dommage parce que c'est une grosse partie de l'œuvre de Stephen King.
Oui, oui. Et puis je pense que c'est aussi quelque part une critique hein, de la société américaine, enfin de la petite société américaine, hein, celle des petites villes du Maine, ou enfin de la Nouvelle-Angleterre, puisque c'est un peu le haut du...
Proche Canada.
Bon, après,
voilà,
il les aime, les gens de là-haut, ça se sent quand il les raconte. On a envie d'aller les rencontrer.
Non.
Sauf qu'on a
non,
envie
pas
d'aller...
Tous. Pas tous.
On a envie d'aller les rencontrer quand ça se passe normalement, si tu veux. Voilà.
Oui, enfin, ça dépend.
Et quand il n'y a pas de neige.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Mais si, moi, ça m'a donné vachement envie d'aller dans le Maine. Hein.
Oui, mais après, c'est des beaux paysages.
Les arbres.
Je le nie pas, c'est les habitants, quoi. Parce qu'il y a
mais
souvent des.
À part quand il y a des résurrections.
Du brouillard.
Et voilà, du brouillard par exemple.
Moi, je pense
ou
que...
des hôtels vides. Enfin bon, voilà, mais sinon, ça.
Oui,
bien.
Ou des cimetières d'Indiens aussi.
Voilà, ouais.
Non.
Les Micmacs.
Voilà, c'est ça. Tous les petits trucs. Ou...
Moi, j'irai un jour voir. Il a un beau manoir, Stephen, là-haut.
Oui, oui, tout à fait.
Dans le Maine.
Dans le Maine.
Oui.
Oui, c'est beau.
Oui, c'est beau, mais j'ai jamais dit que c'était pas beau.
Pourquoi tu dis alors?
Bah, Je fais que...
Alors, quel est son premier film, Monsieur Gwen?
Oh, moi, je dirais
non.
que...
C'est non pas son... C'est pas son premier film.
Non, mais la première adaptation, c'est pas Carrie?
C'est Carrie, ouais.
C'est Carrie.
C'est Carrie Bradshaw.
Au bal du diable.
C'est ça. Voilà, de Brian.
De Palma.
De Palma.
Bien.
T'as vu, j'ai pas... On dirait que j'ai bossé.
Quelle année?
76.
Oh, bravo.
Voilà, c'est ça.
Bon, d'accord, j'ai un peu bossé. Quoi.
Oui, bah quand même, c'était normal, normal.
D'ailleurs, il y a eu un Carrie 2, non?
Et je pense que ça doit être une sacrée MERDE.
Voilà.
Ouais, ouais.
Et là, en 2013, il ressort le Carrie.
Voilà.
Mais la vraie version, peut-être qu'il va être pas mal d'ailleurs. Mais le truc, c'est que c'est vachement ancré dans une époque, Carrie. Parce que
oui, mais c'est ça aussi.
Le personnage, etc. Je dis pas que ça existe plus maintenant. C'est la façon dont elle est brimée, la fille. Hein, parce que donc, c'est l'histoire d'une jeune fille
oui.
qui habite avec sa mère, qui est une religieuse folle à moitié. Oui. Qui
revient
la
souvent
frustre.
D'ailleurs.
Voilà. Oui, ça revient souvent.
Ouais. Ouais, tu veux dire qu'elle est. Oui, oui.
Et puis, bon, bah voilà, chose surnaturelle se passe et Carrie.
Elle est un peu télékinésiste.
Elle a un peu des pouvoirs.
Oh, c'est
quoi.
Ça.
Donc, vengeance arrive avec tout ce petit monde-là. Et donc, c'est ancré aussi voilà, dans certaines années. Je ne sais pas si on peut vraiment faire la même en 2013.
Bah non, parce voilà. qu'il y a toutes ces histoires avec les règles, là, parce qu'elle a ses règles. Enfin,
ouais,
et
voilà.
Il lui jette des tampons au visage. Ce qui, en 2013, à mon avis, passerait un peu. Enfin, je dirais que ça a
disons
un côté moins
c'est moins tabou quoi.
Non, mais
ouais,
j'ai lu une critique de celui qui va sortir en 2013, mais il a l'air quand même pas mal hein.
Ouais,
bah, c'est peut-être aussi hein.
C'est moins ce sera beaucoup mieux que le 2. Ce qui n'est peut-être pas dur.
Oui.
J'irai voir ça, je vais pas avoir de films d'horreur d'habitude, mais quand c'est Stephen King, je fais une
Mais il est sorti déjà, non?
J'en sais rien.
Bon, pas sorti en avril. On l'a peut-être pas eu en France, nous, mais aux États-Unis.
Ouais, c'est peut-être passé aussi un petit peu.
Ou alors, est-ce qu'il va sortir qu'en DVD? Parce qu'il y a beaucoup de films, des fois, qui ne sortent qu'en DVD.
Bah, c'est ça aussi un peu le problème avec Monsieur Stephen King, c'est qu'il y a beaucoup de téléfilms
ouais.
qu'on a vus surtout sur certaines chaînes, hein, que nous n'aimerons pas entre le 5 et le 7. voilà. Et c'est vrai que pour moi, ça c'est quand même resté un peu ça. C'est pour ça que moi, Stephen
mais
King, ça a toujours eu ce côté
noter.
Téléfilm. Ouais.
Que les meilleures adaptations de Stephen King sont souvent les téléfilms dans lesquels lui met le nez. Voilà, là, quand il y a la patte de Stephen King là-dedans, souvent, c'est bien adapté et c'est pas une grande production.
Oui, c'est ça.
Mais ça, c'est une bonne adaptation. Alors que quand il est complètement en dehors de ça, des fois, on se retrouve avec des choses... Effectivement, ça explose et ça se bat et c'est un blockbuster. Mais il n'y a plus de Stephen King là-dedans, des fois.
Voilà. Pour toi, Shining, il est loupé, alors ?
Non, il n'est pas loupé. Il n'est pas loupé, mais c'est pas le livre.
Non, mais ça n'a rien à voir. Mais de toute façon, c'était aussi un peu le truc de Stanley
ouais,
Kubrick, pour ne pas le nommer. C'est justement de prendre une œuvre et après de
Oui, parce que
Stephen
King était quand même comment dire, très fanatique hein, de Mr. Kubrick. Mais dès qu'il
ouais.
a vu le film, il...
Bah, en plus,
non, mais il a dit
il
que
a
c'était un bon
déçu,
film,
quoi.
Mais il a dit que c'était pas son livre.
Oui, oui, mais c'est ça. Et puis il y a le fameux petit passage où justement Stanley Kubrick se moque entre guillemets de Stephen King, puisqu'il y avait l'histoire de la fameuse coccinelle qui n'était pas la même couleur au début du film. Quand tu sais, quand on voit là, et en fait, à un moment, il y a un accident où il y a une coccinelle qui se fait écraser, et là, par contre, c'est la véritable couleur de la coccinelle d'origine du livre.
D'accord.
Donc c'était le petit coup de pouce à.
Ouais, mais après, vu que tu fais une adaptation, tu peux donner libre cours à ton imagination aussi.
Mais c'est souvent le truc. Je pense qu'après, il y a des histoires de droit. C'est-à-dire que dès que tu transformes un peu, ce n'est plus d'après le livre, c'est une adaptation. Et là, tu échappes un petit peu au droit. C'est ça
aussi. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, Stephen King, lui, il en a fait un deuxième du coup. The
bah
Shining.
Oui, oui, oui.
Et qui est très différent, effectivement.
Oui, mais qui est donc forcément plus proche du...
Voilà.
Mais qu'est-ce qu'un Shining, tout simplement ?
Shining, c'est quand ça brille, quand ça fait de la lumière.
Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il est doué de pouvoir, en fait, le petit garçon.
L'enfant
dans Shining.
Lumière,
oui,
c'est ça.
Oui, Danny.
Ouais. Il a des visions. En fait.
Oui, il a des visions. Bah, y en a pas mal qui ont des visions. Hein.
Red Rum.
Voilà. C'est Johnny.
Voilà.
Non, mais, alors pour revenir justement à Carrie, vous m'excuserez de faire cette petite coupe, c'est qu'effectivement il y a quand même une différence entre le livre et le film, c'est que dans le livre apparemment, tu me diras si je me gourre, c'est que Carrie détruit la ville, alors que là, dans le film de Palma, elle agresse que le lycée.
Elle commence par le lycée.
Voilà, c'est ça. Et puis dans le livre, elle veut véritablement tuer sa mère, alors que dans le film, elle cherche plutôt le réconfort.
Ouais,
malencontreusement, sa mère veut la tuer, donc elle se défend quand même. Hein. Et puis dans le livre, elle meurt suite aux blessures que sa mère lui a infligées, alors que dans le film, elle fait écrouler la maison sur elle.
Ah d'accord, ah oui, effectivement, il y a eu des changements.
Ouais, il y a des changements.
C'est en fait une bonne histoire, bien racontée dans un livre, ne donne pas forcément quelque chose de fabuleux à l'écran, et donc il y a des changements à faire pour que ce soit beau, quoi, à l'écran, et, c'est
oui,
tout,
puis
c'est normal.
Je pense, ouais, moi je dirais qu'il y a deux façons de voir, c'est surtout aussi, tu demandes des sous, à une société de production, et donc forcément elle a un regard dessus, et il y a des fins qu'elle ne veut pas.
Ouais.
Elle t'oblige à prendre certains acteurs ou certaines actrices, et donc forcément ça pose aussi quand même pas mal d'histoires où tu peux pas vraiment faire. En plus il y a aussi des problèmes budgétaires, puisqu'il y a aussi des effets spéciaux qui dans les livres paraissent assez simplistes, par contre en vrai tu peux pas le,
puis,
tellement le faire.
Et puis ça a l'air crédible, surtout parce que Stephen King c'est peuplé de créatures hyper difficiles, non mais même à imaginer c'est difficile, il a beau bien les décrire, des fois tu sais pas trop, t'es pas sûr de savoir où il veut en venir, faut pas que ça ait l'air ridicule à l'écran effectivement, parce que sinon ça peut avoir l'air grotesque rapidement.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Tu sais toi d'où sa passion pour ce genre-là, non ? À Stephen King ?
Non, je me rappelle plus de l'histoire, je sais bien qu'il y en a une, mais...
Si, il a déclaré une fois adulte que sa vocation d'écrivain lui était venue alors qu'il explorait un grenier avec son frangin. Il avait découvert un livre qui avait appartenu à son père, un recueil des nouvelles de H.P. Lovecraft, intitulé The Locker of the Shadow. Donc la couverture représentait un démon jaune-vert qui se cachait dans le recoin d'une caverne infernale sous une pierre tombale, et le jeune garçon avait eu la certitude d'avoir trouvé sa voie lorsqu'il l'avait aperçu.
Très bien, voilà pour la petite histoire dont je ne me souvenais plus.
Voilà, donc c'est un autre maître de l'horreur qui l'a inspiré, Monsieur Cthulhu. Donc après d'autres films, parce que j'ai remarqué que quand même il y a des grands réalisateurs qui se sont quand même attelés sur la tâche, notamment Monsieur John Carpenter dans sa célèbre voiture Christine.
N'est-ce pas ? Voilà. Oh, il y a eu plusieurs histoires de voitures avec.
Mais j'ai remarqué qu'il y avait souvent soit un chien, soit un chat, soit une voiture.
Des espèces d'incarnations comme ça.
Oui, mais et puis là, moi, je trouve. Christine, ça rejoint un petit peu Carrie, puisque c'est là aussi un enfant timide, un petit peu tête de turc de ses camarades, et qui, grâce à une voiture qu'il va faire renaître, puisque Christine était jetée comme épave, va trouver une certaine assurance, mais aussi.
Généralement, ils trouvent leur assurance, et puis derrière, ils pètent tout, hein, quand même.
Ouais, c'est mais, ça, ouais, c'est un peu ça aussi.
Un peu le problème. C'est que souvent, dis donc d'ailleurs, si c'était vrai, toute cette histoire-là, il n'y aurait pas beaucoup de villes dans le Maine aujourd'hui, encore en état. Parce que ça finit généralement très très mal pour toute la ville.
Hein. Oui.
Voilà. Des centaines de morts, pas. Enfin voilà.
Moi, par contre, ce que j'avais bien aimé dans ce film, c'était.
Christine.
Christine. C'était que l'autoradio faisait toujours le bon choix de
station.
De morceaux quand il se passait une action.
Et tu crois qu'il écoute Radio Diwan, donc Christine ?
Oui, on ne sait pas, on peut peut-être.
Radio Diwan de l'époque. Hein.
oui, parce que. Allez, on est quand même en 83. Hein,
bon. On peut la faire autrement. Ça, par contre, je suis sûre qu'on pourrait le réadapter, Christine, tu vois.
Oui, tout à fait.
Sans problème.
Bon, après, ce sera peut-être pas une.
Ce sera dans une Super 5.
Oui, c'est ça. Ce sera pas dans une Playmouth 1957.
On dit pas Playmouth.
Une Playmouth.
Ouais.
Une Playmouth.
Playmouth. Et les bagnoles sont hyper importantes.
Oui, ça c'est vrai. Oui, j'ai remarqué. Ouais.
Voilà. Alors moi, des fois, je suis obligée d'aller chercher sur le net les modèles de voitures qui sont pas très courants en France.
Ah bah oui.
Donc d'aller voir la tête que ça un peu, parce que je me dis.
Oui, les Chevrolet, les Chrysler aussi.
Voilà, des choses qu'on n'a jamais vues et que je suis obligée de découvrir pour me mettre dans le. Dans l'histoire.
Oui, mais c'est ça. Je pense que c'est un peu aussi le truc de l'auteur américain, parce qu'il y a quand même cette étiquette collée d'Amérique profonde. Mais c'est vrai que c'est un peu ça.
Carrément. Ce qu'il écrit, c'est ce monde-là.
Oui, mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'aussi il a une étiquette qui, en France, marche un peu moins bien, je pense, vis-à-vis d'autres auteurs qui.
Je ne crois pas qu'il ait mal marché en France.
Moi, je crois qu'il marche à mort, en fait. Hein. Il vend des millions d'exemplaires à chaque fois qu'un bouquin sort. Pourtant, il y a eu des hauts et des bas chez Stephen King. Moi, j'ai vu des périodes, c'est pas mauvais, c'est jamais mauvais. Ouais. Mais il y a des bouquins avec lesquels on s'est éclaté. Et il y a des bouquins, tu te dis, il donne un peu de lui, c'est plus personnel, c'est des trucs de fan en fait. Okay. Plus tout à fait pour le grand public, c'est pas le bouquin avec lequel tu vas découvrir Stephen King, c'est le bouquin que tu veux lire parce que tu as lu tous les autres et que. Avec ça, tu le connais encore un peu mieux.
Oui, et puis il avait eu un accident. Je crois qu'il s'était fait renverser. Et suite à ça, il avait eu quand même des sacrées séquelles. Et il avait dit qu'il arrêtait, qu'il allait arrêter.
Du coup, mais il a écrit des bouquins à cause de cet accident.
Oui.
La version où il meurt un peu, quelque chose près, c'est l'histoire de Lisette.
Oui.
Où sa femme se retrouverait en gros avec, avec les fans un peu à ses trousses, avec des manuscrits, tu vois, un peu oubliés. Et puis il y a aussi Duma Kay, qui est là le seul qui se passe en Floride d'ailleurs, tu vois. Où là, c'est un peu la version où il survit, mais où il survit seulement, où il se retrouve un peu isolé parce qu'il fait n'importe quoi à la suite de son accident. Donc voilà, ça l'a amené beaucoup à écrire. Et Roadmaster aussi, c'est ça aussi.
Oui, oui, parce que pour en venir à Carrie, là, quand il commençait vraiment à être un petit auteur, de faire des nouvelles, il avait écrit Carrie, puis il n'était pas content, puis c'est sa femme, non, c'est pas Tabata,
c'est Tabitha.
Tabitha, ouais, c'est ça, qui avait trouvé ça dans la poubelle et qui l'avait obligé à le retravailler. Quoi.
Ouais. Et donc il a écrit un paquet de nouvelles aussi qui ont été adaptées en long métrage.
Oui, oui, mais c'est ça. Quand moi j'ai la référence Stephen King, bon, c'est vrai que sorti des grands films entre guillemets, pour moi c'est vrai que c'est des trucs de séries qu'on voit l'après-midi. Donc voilà, c'est vrai que c'était moins. Et puis je pense qu'après je sais pas si c'est bien fait, si c'est mal fait, mais pour moi ça avait toujours l'air d'une catégorie Z, mais il y avait un truc où tu vois les mecs ils avaient pas les moyens quoi.
Oui.
Donc moi je pense
il y a
que
pas
ça...
toute l'ampleur qui a été donnée à des moments.
Voilà.
Enfin, moi je me rappelle le Creepshow qui était pourtant c'était sympa hein, mais des fois ça manquait de moyens et c'était un peu voilà un peu grotesque, un peu grand guignol alors que Creepshow les nouvelles qui ont été adaptées de ça, c'est effrayant, c'est réellement effrayant.
C'est voulu de toute façon parce que le film d'horreur de l'époque était tourné donc très rapidement et avec peu de moyens, ils avaient un budget qui était serré.
Oui, mais c'est ça aussi, ouais.
Je pense que c'était dire la patte du film d'horreur de l'époque.
Oui, oui, puis j'ai toujours moi, c'est vrai que ce qui me pose un peu souci, enfin bon, après, c'est que moi, hein. C'est-à-dire que c'est souvent le truc où il y a un groupe qui s'unit.
Il y a toujours un groupe.
Il y a toujours un groupe chez Stephen King. Et,
non,
et
même pas uniquement chez lui.
Oui, mais voilà, c'est ça. Après, dans les films d'horreur, oui, c'est vrai qu'il y a toujours un groupe. Après,
il y a
quand...
des héros solitaires, des fois, effectivement. Oui. Mais il y a aussi, effectivement, quand il y a l'adversité qui arrive, les gens se réunissent.
Oui, parce qu'il y avait les Dreamcatcher, il y avait aussi les Langoliers, là où ils prennent l'avion. Puis
il y a ça aussi.
Oui, c'est aussi ça. Stand By Me aussi, qui est un petit groupe d'enfants. Et
qui deviennent adultes.
Oui, non, mais voilà. C'est,
les Tommy Knockers.
Voilà aussi. Mais c'est vrai que moi, pour en venir aux Langoliers, tu vois, c'est ce côté-là où ils sont dans un avion. D'un coup, ils se réveillent, ils sont tout seuls, ils arrivent dans un aéroport, il n'y a personne dans une ville où il n'y a personne. Ils ne sentent plus rien. Et tu sais qu'il y en a certains, bizarrement, ils vont s'en sortir. Puis il y en a d'autres, tu sais que... Ah, c'est pas de chance, quoi. Et voilà, avec moi, mon héros préféré, c'était Monsieur Toomey. C'était dans le série, c'était lui qui introduisait les fameux les Langoliers.
Bah, tu vois, pour parler de ça, là, il y a eu Dome, Under the Dome, qui est donc un roman énorme en deux tomes, qui est une tuerie fabuleuse. Enfin, le livre, je l'ai dévoré en deux jours.
Ah oui.
Et ils en ont fait une série qui est très, très librement adaptée. bien niaise régulièrement et ils ont déjà commencé à tout changer. Donc moi j'en suis dans la saison 1 ou 2 ou quelque chose comme ça et c'est déjà commencé à tout changer. Je sens une happy end.
Pour expliquer ce que c'est Under the Dome en fait.
Ah bah alors je vais expliquer Under the Dome. Donc c'est évidemment une petite bourgade du Maine comme d'habitude.
Oh non.
Qui un matin se retrouve isolée, bloquée sous un dôme indestructible,
transparent.
Donc ils savent pas trop au début si c'est un mur. Ils essayent de creuser, ils essayent de monter en altitude. Voilà. Et ils se rendent compte que non, ils sont complètement isolés. Il y a déjà des problèmes un peu, tu vois, d'air. Il y a pas de vent, il y a pas un brin de vent. L'eau a du mal à arriver. Ils voient les réserves de nourriture qui commencent à descendre. Et puis là, tout d'un coup, voilà le côté très psychologique de Stephen King, c'est que les personnages qui sont en quête de pouvoir et qui aiment manipuler, là, se mettent un peu en action. Il y a de la résistance qui s'oppose à ça. Enfin voilà, c'est vraiment un huis clos hyper angoissant, fabuleux. Et ils en ont fait une série très américaine. Et voilà, une série qui va sans doute cartonner parce que...
Avec Rambo, non, il n'y a pas un Rambo, un ancien vétéran, dans cette série
Dale Barbie. Ouais, qui est ouais, c'est mignon quand il appelle Barbie. Et effectivement, qui a un personnage, qui a un caractère bien trempé dans le bouquin et qui se retrouve à être un espèce de petit beau gosse miné, quasi insipide dans la série, quoi. Voilà.
Je crois que c'est lui qui a créé la série, hein, Stephen King, Under the Dome.
Il est avec Spielberg, d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait ça. Il y a Spielberg, entre autres, au moins les producteurs, quoi. Mais je pense que là, ils veulent faire un gros coup de fric, qu'ils vont y arriver. Mais c'est pas fidèle à l'esprit du bouquin, qui est vraiment un huis clos terrifiant. Voilà. que je conseille du coup.
Il y avait une histoire là, par contre je ne m'en rappelais plus du titre, où c'était dans un petit village en hiver et il y a le diable qui apparaît et ils doivent sacrifier un enfant. Donc je ne me rappelle plus du tout. Et donc voilà, et il y a des gens qui disent non, il faut résister. Et évidemment, toute la population. Mais alors, par contre, je ne me rappelle plus du tout. Et là aussi, c'était un téléfilm.
Mais c'est bon, souvent,
celui-là, il revenait souvent. Je crois que c'est celui que j'ai vu le plus souvent.
Le diable, c'est un truc hyper présent chez Stephen King et c'est souvent dans les romans. Donc soit il est personnifié voilà, dans une bagnole, un animal, ou carrément sous les traits de quelqu'un. Mais il y a eu aussi donc, le bazar de l'épouvante qui a été adapté. Voilà, bazar où t'as un gars qui ouvre une petite boutique, comme par hasard, les gens y trouvent un peu ce qu'ils ont toujours rêvé d'avoir, mais en échange, il faut qu'ils donnent de leur personne et voilà, ça devient aussi très angoissant et c'est vraiment de la torture psychologique.
On a l'impression que rien n'est gratuit avec Stephen King.
Là, rien n'est gratuit, non, il y a un prix pour tout, notamment un petit garçon qui, pour une carte de baseball, perd son frère. C'est emmerdant.
Voilà. C'est ballot. Oui, moi ça me fait aussi penser, puisqu'on en est au groupe, dans le film The Mist de monsieur Franck Darabon. Puisque lui il en avait fait trois.
Pas fait qu'un, ouais.
On est dans les trucs modernes là quand même.
Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, mais c'est dans l'histoire du groupe. Donc, tu vois,
fait un grand saut.
Oui, j'ai fait un grand saut. Oui, c'est mon côté Mao. Et donc là, il se retrouve coincé dans un centre commercial. Il y a beaucoup dans les centres commerciaux. Puisque la dernière fois que j'ai vu un film. Centre commercial, pardon.
Avec les requins, c'est pour ça.
Oui, c'est ça. C'est vrai. Okay. Donc voilà, il se retrouve. Et là, il y a évidemment la figure religieuse qui a, parce qu'à un moment, elle échappe à un monstre, se croit touchée par Dieu et qui décide de diriger tout et de sacrifier un enfant.
Ah, encore.
Voilà, c'est ça.
C'est très présent, cette figure un peu, cette vieille bigote chez Stephen King. Il y a toujours une ou un qui finit mal généralement, hein, parce que du coup, vraisemblablement, pourtant, il a l'air croyant, hein, le Stephen King, mais il a l'air croyant en plein de choses, pas que en Dieu. Et du coup, les lèche-bottes du divin, visiblement, finissent mal. Donc il doit y avoir quelque chose comme ça chez lui, un truc à régler.
Ouais. Voilà. Moi, par contre, moi, c'est la fin du film que j'avais trouvé un peu
la
naze.
La dis pas.
Non, mais je la dirais pas. Moi, je la trouvais un peu naze. Après, je sais pas si dans le livre, c'est différent.
Je me souviens plus, oui.
Mais non, moi, j'ai trouvé ça bâtard. Enfin, je l'aurais... Elle est bien. Mais c'est-à-dire que voilà, elle laisse un certain malaise que je comprends tout à fait. Et que voilà.
Bah, au moins, c'est pas une happy end.
Voilà,
niaise,
c'est
hein.
ça. Mais après, moi, c'était la manière de faire que je trouvais un petit peu.
C'est la torture. Tu te dis non, le chien.
Voilà, c'est ça.
Mais n'empêche qu'il en a fait pas mal des adaptations, le monsieur Darabon.
Oui, parce qu'il avait fait Les Évadés et puis La Ligne Verte. Donc c'est aussi les côtés pénitentiaires.
Pour le coup, c'est une des bonnes adaptations, je trouve, même si c'est réalisé très différemment parce que c'est un feuilleton en fait, La Ligne Verte, qui fait en plusieurs épisodes. Il a publié ça dans un
magazine, fanzine.
Ouais, non, c'est plus ça, j'arrive plus à me rappeler. Mais il est plutôt bien foutu, plutôt réaliste, même si dans le bouquin on va davantage vers l'histoire du personnage principal qui est donc le gardien de prison.
Oui.
Edgecombe, c'est ça.
Oui, c'est ça. Paul.
Paul Edgecombe, voilà. Et
Tom Hanks.
Ouais, très bien. On suit davantage ça, on le connaît mieux, quoi. Sa vie à la suite de l'histoire, c'est plus creusé. Bon, évidemment, on peut pas faire un film qui dure 8 heures, donc il faut faire des sélections.
Oui, voilà.
Mais c'est une bonne adaptation.
Avec la présence du personnage lourd de Monsieur John Coffey.
Et dans le livre, il y a autant aussi le monde carcéral qui est aussi bien décrit, ou.
Ouais. C'est fabuleux. Vous avez lu aucun bouquin de Stephen King?
Okay. Non.
Ah, d'accord.
Okay. Non, du tout.
D'accord. C'est pour ça que tu es invité d'ailleurs.
Ah, oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Et en plus, c'est au pénitencier de Cold Mountain. Je trouvais ça.
Retour à Cold Mountain.
C'est ça. C'était un endroit très très gai.
Mais y a
par contre, en Louisiane.
Dans le livre, enfin dans le film aussi d'ailleurs, il y a un personnage affreux, là, Billy the Kid.
Oui.
Donc il est très très gai aussi, oui.
Oui. Donc pour situer la ligne verte, hein, pour les auditeurs qui ne seraient pas auditeurs de ATC sur 57.5.
C'est la couleur du sol, du bloc E, qui est donc le bloc où on va exécuter les condamnés à mort.
À la chaise électrique. Hein.
Voilà, et puis la chaise électrique, ouais. Ouais. Voilà, il y a des scènes, waouh.
Ouais, la scène là où Percy, il enlève, il
fait exprès de pas mouiller l'éponge qui sert à conduire le courant correctement pour Monsieur de la Croix,
pour éviter qu'il soit tout noir surtout.
Et là, du coup, Ed crame littéralement. Je pense que ça doit être assez ignoble, c'est assez réaliste. Mais voilà, donc on était en train de parler d'autre chose là, la couleur du sol.
Oui.
Voilà, donc c'est ça la ligne verte.
Oui, oui, tout à fait.
Voilà.
Oui, donc et puis la présence donc de John Caffey là, donc cet homme très lourd, très massif,
très guérisseur.
Oui, voilà. Mais non, mais puis c'est-à-dire qu'il
avec l'innocence d'un enfant.
Voilà, c'est ça. Surtout qu'il
est un don. Oui, bah là, c'est divin hein, du coup.
Oui, c'est ça. Oui, mais ici, il est quand même accusé d'avoir violé et tué deux fillettes.
Voilà. Alors qu'il a essayé de les sauver.
Voilà.
Voilà.
Et puis évidemment, il soigne les gens. Enfin, il absorbe leur mal, quoi. C'est très beau. Et d'ailleurs, quand il décède, il y a vraiment un moment très, très émouvant. Quoi.
C'est ça aussi, Stephen King, il ne fait pas de happy end. À un moment donné, il n'y a pas de miracle au-delà du raisonnable, on va dire. Même si c'est toujours de la fiction. Mais là, tu vois, il ne pouvait rien faire pour lui. Ben, ça se passe, tant pis. Mais c'est injuste, oui, ça énerve le téléspectateur. Mais...
Non, mais voilà. C'est-à-dire que moi, ça rejoint un peu les tragédies grecques. C'est-à-dire que le héros, quoi qu'il fasse, de toute façon... Ça se passera comme ça, quoi. C'est vrai que nous, les Américains, nous ont habitués au happy end.
Pas toujours, puisque tu regardes le film Les Évadés, réalisé par même réalisateur.
Oui, oui, tout à fait.
Bah, s'il y a quand même une happy end.
Oui,
parce qu'à la fin, il s'en sort.
Ouais.
Ça arrive hein, qu'ils s'en sortent quand même. Mais quand ils s'en sortent, soit ils ont perdu un paquet de plumes, ils ont des copains qui y sont restés. Enfin voilà. Généralement, il n'y a pas de grosse happy end où tout le monde va bien. Il y a des traces.
Oui, parce que là donc dans les Évadés, qui est donc toujours du même réalisateur, donc notre cher ami Andy Dufresne, donc qui est joué ici par Tim Robbins, donc
qui c'était Brad Pitt qui avait été choisi.
Ouais,
mais...
Voilà. Bah, ça, je trouve que c'est mieux.
Ouais.
Bah, ça lui donne un côté un peu moins beau gosse quand même, ouais. Je trouve que... Parce qu'après, voilà, dans le cinéma, si tu fais un beau gosse...
Peut-être que Brad Pitt avait refusé la sodomie.
Oui, c'est peut-être ça aussi. Ou la pipe. Ça dépend. Donc, Monsieur Andy est accusé d'avoir tué et sa femme et l'amant de celle-ci. Voilà, et donc il est incarcéré à perpète. Hein. Et donc, il se lie d'amitié avec le fameux Red. Donc Morgan Freeman
qui connaît toutes les ficelles.
Ouais, qui connaît toutes les ficelles et voilà et donc ben évidemment Andy puisqu'il est quand même un peu froliqué va subir là aussi un cas de brimade vis-à-vis de ses camarades non pas de lycée mais cette fois-ci de prison.
Oui.
Et du directeur. Oui, enfin bon après c'est grâce aussi à sa intelligence qu'il va pouvoir trouver une solution pour s'en sortir et échafauder un plan qui 19 ans plus tard va réussir. Alors, superbe d'ailleurs. On s'y attend pas du tout et je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors là c'est pour le cas moi je le trouve un peu moins fantastique, peut-être vraiment plus réaliste.
Quasiment pas, ouais.
Enfin, mais c'est ça, voilà.
Mais c'est pour ça que je dis que ça, c'est que les histoires de Stephen King sont ancrées dans le réel. Et quand tu lis souvent, ça peut être une grosse partie du bouquin, tu t'ennuies pas. Tu es même surpris que ça arrive à un moment donné, tu dis, mais c'est vrai, je suis en train de lire du Stephen King.
Oui, mais
évidemment,
mais c'est pour ça,
que ça
ouais.
part en cacahuète. Mais on est bien dans ces récits.
Oui, mais justement, quand tu vois les évadés, franchement, à un moment, tu dis, bon, c'est du Stephen King. Ah bon?
Oui.
Ah.
Et il sait faire, hein, voilà. Il sait faire.
Par contre, moi, c'est vrai que c'est un de mes films que j'adore. C'est vraiment
qu'il a déjà écrit une romance?
Une romance, à part Misery, dans Misery, non.
Non.
Voilà.
Ah, parce que ça s'appelle ça une romance.
Bah non, mais Misery, dans Misery, tu sais, Misery, c'est un auteur donc, qui écrit
oui,
des romans
exact,
à l'eau de rose absolument infâmes, complètement niais, quoi. Du coup, voilà, je pense que là-dedans, dans le bouquin, en fait, là, dans le film, on ne voit pas. Mais dans le bouquin, on
a
des... Non, on ne peut pas. Ça, c'est difficile à transposer, quoi. Mais il y a des extraits du bouquin qu'il écrit. Donc, tu lis Misery dans Misery.
Voilà, c'est
voilà.
ça.
Mais et ça... c'est absolument... C'est dégoulinant, quoi.
Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est que justement, à une époque de sa carrière, Monsieur Stephen King s'était créé un pseudonyme.
Mais il en a eu plein.
Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'il avait fait d'ailleurs mourir, ce fameux auteur.
Bah, il y a Richard Bachman,
voilà,
déjà.
Et qui lui avait rendu d'ailleurs hommage.
Voilà.
Donc pour faire un rapide synopsis de Misery,
oui.
Donc évidemment, l'histoire de Paul Sheldon. Bazinga. Donc qui est le créateur de la fameuse série à succès
qui est joué par
James Caan
voilà qu'on a vu dans des trucs très très différents après.
Oui après dans la série Las Vegas
par exemple.
Il faut bien rebondir.
Ah bah oui, c'est ça, tout à fait.
Il avait récupéré ses jambes, c'est pour ça.
Voilà, et donc, il y a un moment, il y a un accident de voiture dans sa Ford Mustang.
C'est donc
1965.
Un auteur à succès,
voilà, c'est
qui
ça.
A écrit une série de bouquins qui s'appelle Misery, qui est une héroïne très autant en emporte le vent version cheap. Et à un moment donné, il en a marre d'écrire Misery,
oui, voilà, c'est ça.
Il fait crever Misery, voilà. Quoi, en gros.
Il y a un autre film, d'ailleurs, là-dessus, où l'auteur...
Oui,
film,
oui, avec Johnny
Stephen
Depp.
King.
Avec Johnny,
ah oui,
Depp, ouais.
C'est,
ah, ça.
C'est pas la chambre 1400.
Oui. Non, ça c'est autre chose.
C'est pas la. Ah oui,
y a une
fenêtre
histoire...
secrète.
Voilà, oui. C'est ça, merci.
De rien.
Voilà, c'est ça. Et donc, l'oncle monsieur, il a un accident, oui, de voiture.
Dans la neige,
dans
la tempête.
Dans sa fameuse Ford Mustang 1965. Très important, la voiture.
Oui, toujours.
Voilà. Et donc, il est recueilli par une infirmière.
Quelle chance.
Annie, ouais. Annie Wilkes.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais quelle chance.
Et qui va finalement le...
Bah, c'est une fan, en fait. C'est une fan,
oui, c'est ça,
qui a l'air d'une vraie fan aimante et gentille.
Fan,
il dit,
fan,
qu'elle a de la chance.
Ah, oui.
Et puis, en fait, elle veut pas,
j'aime bien la
que
massette.
Misery meure. Et donc, elle lui demande gentiment d'abord,
oui,
d'écrire la suite. Et puis ensuite, elle est moins gentille.
Ah oui, mais... Oui,
beaucoup,
oui,
moins gentille.
Elle l'attaque aux chevilles. Elle le chevillé au corps.
Non, mais là,
elle
essaie de partir aussi.
Oui, aussi.
Elle le torture avec les antidouleurs. Elle lui donne, voilà, pas tout de suite. Et dans le bouquin, il utilise la métaphore de poteau, tu vois, qui serait dans la mer, qui serait immergé quand ça va bien, quand les cachets font effet. Et puis au fur et à mesure, la marée redescend et les poteaux se retrouvent à vif, à l'air libre. Et là, on a bien cette métaphore qui nous explique bien comment ça peut à nouveau faire mal et s'insinuer, voilà, tout doucement et devenir insupportable. Ah non, Misery, c'est quelque chose.
D'ailleurs, elle a été oscarisée.
Ah ouais.
Oui, ça m'étonne.
L'infirmière.
Oui, ouais, Kate Bates, qu'on avait découvert aussi dans Les beignets de tomates vertes. Pour,
oui,
ceux qui,
mais elle en a fait un autre aussi, d'adaptation,
ouais,
de...
Dolores Claiborne, voilà, c'est pas elle, ouais.
Est-ce que ça vous dit quelque chose, Dead Zone?
Bah oui,
de
évidemment.
Monsieur Cronenberg.
Évidemment.
Que j'ai beaucoup adoré. Donc, ce qui se passe à Castle Rock... La même ville d'ailleurs que
Castle
Rock, merci, et qui est donc la même ville que Stand By Me. Et aussi...
Castle Rock, c'est aussi le bazar de l'épouvante, je crois.
Oui, c'est ça. Ouais. Et puis d'ailleurs, Rob Reiner, qui avait fait deux films de Stephen King, participe à la société de production Castle Rock Entertainment.
Voilà. Donc, c'est souvent les mêmes villes. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc l'histoire de Johnny Smith, donc il est joué ici par Christopher Walken, qui a un accident de la route et qui reste pendant 5 ans
dans
le coma. Voilà, c'est ça. Et quand il se réveille, évidemment, les choses ont changé. Sa fiancée de l'époque s'est remariée et lui, il a un pouvoir, c'est-à-dire que dès qu'il touche quelqu'un, il peut voir son futur comme son passé. Et à un moment, il va croiser par hasard, mais y a-t-il vraiment un hasard, le chemin d'un futur élu, de la Maison Blanche qui brigue la présidence. Et là, en le touchant, il va se rendre compte que ce monsieur qui n'est autre que Martin Sheen, hein, qui va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et donc voilà, et il va évidemment devoir trouver... Alors, il essaie de dire aux gens que, bah, il faut qu'ils agissent, évidemment,
personne
ne le croit. Donc
non,
il a décidé à un moment d'agir et de devoir le tuer.
Et monsieur, le cerveau aussi, c'est important chez Stephen King. Il y a La part des ténèbres, ça a été adapté, ça aussi. Où ça, c'est une histoire de jumeaux absorbés par l'autre jumeau, vous voyez, une
oui,
utéro.
Oui,
ça
oui,
arrive,
oui, ça arrive. Oui.
Et cette petite partie-là, restée un peu vivante chez lui, le rend complètement schizophrène, mais ça ne se passe pas que dans sa tête. C'est carrément une histoire folle avec un double de lui qui agit et tu vois, qui n'a pas la même bagnole, qui n'a pas la même apparence, qui est une espèce de version de cet homme. Je sais pas s'il est... Bah, il est écrivain d'ailleurs, c'est ça.
Oui, mais souvent
et
il est écrivain.
Mais sa version sauvage, quoi. Donc voilà, encore une histoire de cerveau perturbé.
Ouais,
parce que tu en parles de cerveau perturbé, on va revenir sur Shining.
Oui, tout à fait.
Parce que là aussi encore un
cerveau dérangé. Oui,
un écrivain, parce qu'il essaye d'écrire.
Oui, voilà, c'est ça.
Qui se retrouve veilleur dans un hôtel isolé.
Voilà,
très
c'est
isolé.
Ça. Ouais, très isolé, oui.
Pour la saison hivernale, aussi, encore un peu
mais
de neige.
Il se dit qu'il va avoir un peu de temps pour écrire,
oui,
du coup. Donc, il vient avec sa femme et son fils.
Et
Danny.
Oui, et qu'il apprend que l'ancien gardien avait tué sa femme et ses deux petites filles, les fameuses,
voilà,
jumelles. Donc voilà, et ça commence un petit peu à tourner à l'autre boudin au bout d'un moment. Hein.
Ça tourne carrément à l'autre boudin. Mais, et il est incarné par Jack Nicholson, ce qui n'enlève rien.
Voilà, c'est ça.
Qu'il a lancé d'ailleurs.
Ce oui, voilà aussi. Et puis bon,
sa carrière.
La pauvre actrice qui avait mangé gras aussi en tant qu'actrice.
Oui.
Hein. Ouais, c'était pas Latif Kechiche, mais Stanley Kubrick, c'est pas mal aussi. Hein,
elle avait pas mal ramassé.
Ouais. Elle avait pas mal ramassé.
Je pense que ça doit pas être facile Monsieur comme rôle à jouer.
Mademoiselle Duval.
C'est là qu'aussi a été créée la fameuse Steadicam.
Oui.
C'est la caméra portée avec un harnais sur un bras pivotant.
Voilà, c'est ça.
Et sur un zoom. Ça fait, tu sais que tu peux suivre la personne en, comme si tu voyais en face d'elle ou au ras du sol. Tu sais, quand il fait les plans sur le petit
tapis.
Garçon avec le tricycle, et ben c'est avec une steadicam.
Puis, c'est quoi que c'est, je ne me rappelle plus quel film qui avait été fait sur la chambre, la fameuse chambre.
Bah, c'est celle-là, 1408, là, non?
Non, c'est là-dedans, chambre 237, si je me rappelle bien. Il y a eu un documentaire qui a été fait sur Shining.
Ah oui.
Et
c'est ça,
là, voilà, c'est là où. Bah, après, ça part dans des interprétations.
Après, les gens confondent entre. Faut pas déconner, Stephen King, il aime le surnaturel. Je pense pas qu'il croit à un quart de ce qu'il écrit, heureusement. T'as les fanatiques qui, derrière, essayent de trouver des.
Oui, mais voilà, c'est ça aussi.
Des bases rationnelles à tout ça, il n'y en a pas. Hein. Voilà.
Non, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination.
Oh eh oui, mais il est carrément tordu, oui.
Oui, mais non, mais c'est, je pense qu'en tant qu'auteur, tu te construis là-dessus. C'est que tu trouves un truc et tu commences vraiment à construire
ça.
Autour.
Peut-être que s'il n'avait pas écrit, il serait devenu complètement psychopathe. Hein.
Ah, mais
il avait besoin d'expulser tout ça. Parce
oui,
que
mais c'est ça. Bah,
je pense qu'il y a comme beaucoup d'écrivains.
Oui, voilà, c'est ça. On en a connu d'autres.
Je prends Tolkien,
français.
C'est pareil, le monde qu'il a créé.
Ouais,
ou...
bah, déjà, mais ça aussi. Bon, après, le truc de Tolkien, c'est que c'était aussi un chercheur, puisqu'il était à l'école, je ne m'en rappelle plus, de Cambridge ou d'Oxford, je crois que c'est Cambridge. Donc, vraiment, il y avait tout un truc élaboré. Donc, vraiment...
La dame qui a créé Harry aussi, c'est pareil, il y a un monde.
Ouais, c'est ça. Bah, moi, je pense à des auteurs comme Alain Edgar Poe ou Monsieur Lovecraft qui sont aussi entrés dans des trucs très bizarres.
Poe,
comme...
il est complètement barré.
Oui, mais voilà. Oui. Bah, d'ailleurs, je crois qu'il y en a certains qui ont très, très mal fini, hein, je veux dire, au plan mental. Mm-hmm. Donc, voilà. Même notre cher Guy de Montpassant, là aussi lui puisqu'il était aussi barré dans certains trucs dans les trucs invisibles de personnages invisibles de doubles aussi là aussi pour le cas donc je pense qu'il y en a certains aussi ils sont pas un peu barrés en sucette mais bon ça n'a pas empêché qu'ils ont laissé vraiment des œuvres admirables oui avec 3 Z
très bien. De quoi avions-nous prévu de parler?
On était sur Dead Zone, donc tu peux dire aussi qu'il y a une série qui a été créée.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
Mais bon. Je ne sais pas si ça valait bien le coup.
Oui, moi aussi, je pense que si. Hein, moi, j'ai trouvé ça. Au début, tu dis ouais, ça a l'air pas mal. Puis, comme Bonnie Tyler, ça turn around.
Voilà, alors il y a des histoires. Il y a quoi? Il y a Cujo.
Cujo, ouais, avec le chien.
Voilà, donc ça, c'est un truc dont je ne pourrais pas beaucoup parler parce que je n'ai jamais réussi à lire le livre. Ça me.
Oui, mais
c'est au-delà de mes forces.
Alors, tu vois, parce qu'au cinéma, t'as Beethoven et puis t'as Cujo.
Voilà.
C'est la version un peu mauvaise.
Et du coup, bon, le film n'a pas l'air d'être une adaptation au top, mais le livre m'a. Dreamcatcher, j'ai mis du temps à le lire aussi.
Ouais.
Parce qu'il est, il est monstrueux.
Oui.
Il est monstrueux. Mmh. Il est littéralement effrayant. Et Cujo, c'est pareil, le coup du petit toutou à sa mère qui part en vrille. Des fois, la façon dont c'est fait, Stephen King, c'est au-delà du supportable.
Oui, puis il y a Cimetière ou Cemetery.
Oui.
Hein,
alors ça, le livre est fabuleux,
voilà,
et le film est
pour le cas, c'est la seule réalisatrice, puisque c'est Marie Lambert hein, qui le fait. Donc évidemment, l'histoire de ce cimetière dans...
Non.
De ce cimetière d'Indiens.
Oui. Voilà.
Mais bon, on enterre un enfant dedans. Et avec le fameux chat. Il y a toujours un chat.
Voilà, il s'appelle Churchill. Le chat.
Bah là, dans le film, il s'appelle Church.
Donc c'est quoi l'histoire? C'est pas une...
Alors,
c'est une famille qui vient de s'installer.
C'est voilà, c'est ça. Une famille de Chicago qui s'installe.
Dans
et qui a, voilà, c'est, bah oui, forcément. Enfin, voyons. Et qui découvre qu'il y a un cimetière indien.
Ah non, il découvre d'abord le cimetière des animaux.
Ah, c'est
oui.
Ce
des enfants du quartier, en fait.
Oui.
Qui enterrent les animaux domestiques. Voilà, dans ce petit cimetière. Mais au-delà du chemin, il y a un espèce de gros tas de broussailles. Et t'as encore un autre cimetière derrière, un cimetière indien traditionnelle. Et puis, il y a des rumeurs qui courent sur le fait que ça pourrait éventuellement ressusciter les gens qu'on y enterre.
Voilà.
Et il y a des histoires qui n'ont pas été vérifiées, etc.
C'est pas Poltergeist. Voilà. Hein, là, ils n'ont pas construit au-dessus, ils sont à côté.
Et là, un jour, le père de famille se retrouve tout seul à la maison. Les enfants sont partis voir les grands-parents avec la maman. Enfin, voilà. Et puis, le petit garçon dit à son papa, tu fais bien attention à Church. Hein, il n'a pas l'habitude. Il y a la route, etc. Donc, voilà. Et puis, arrive ce qui va arriver. C'est
un gros camion.
Se fait écraser par... voilà. Et le gars se dit, bon, bah voilà, je vais enterrer le chat dans le cimetière des animaux. Mais il est pris dans une espèce de transe et il va l'enterrer au-delà du cimetière des animaux, plutôt dans le cimetière indien, chez les Micmac. Et il est sur son canapé. Je crois qu'il est endormi sur le canapé à un moment donné. Et là, il sent une odeur un peu étrange.
Oui,
et le chat arrive, il a encore des bouts de sac plastique, sac poubelle dans les, dans les moustaches. Et le chat est là, le chat est vivant, mais il n'est pas tout à fait lui-même.
Tout à fait,
Il redevient jamais tout à fait le même. Il a toujours un côté inquiétant. Il a un côté inquiétant. Et là, voilà, évidemment, ce qui se passe, c'est que... Il a testé, il n'aurait pas dû tester.
Oui, mais en plus...
Et puis la suite du récit lui amène un événement plus grave.
Voilà.
Et il est dans un engrenage, il ne peut plus rien faire. Ouais, quoi.
Voilà. Mais ça finit bien pour le chat quand même.
Non.
Non, non, pas du tout. Non, non. Mais dans, même dans Réanimateur, le chat, il mange des battes de baseball, mais il revient toujours.
Il aime ça. Hein.
Ah oui, oui. Moi, ça me rappelle toujours, tu sais, c'est au Japon, il y avait eu une pollution au plomb. Et donc,
c'est
vraie,
ça.
Oui, c'est une histoire vraie. Et on voyait les chats qui étaient atteints de saturnisme. Et tu vois, dans Réanimateur, c'est pareil. Et là, tu dis, ah, d'accord. Voilà, pour la réalité. Là, ça, par contre, ça fait mourir.
Oui, c'est moins drôle. Donc là, le livre est un livre fabuleux que j'ai dévoré aussi. Le côté psychologique est... hyper bien fait, et alors que dans le bouquin, le film, c'est gore, c'est sanglant.
Puis il me semble qu'il y en a eu un deuxième même.
Ah, bah ça doit être une...
Oui, c'est ça, il y a eu un deuxième. Alors, oui, non, mais c'est ça. Voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi.
Beaucoup de séries Z, hein, quand même.
Moi, je pense qu'il y a pas mal de réalisateurs ou de sociétés de production qui se disent bon, si on a l'étiquette Stephen King, c'est sûr que déjà, on a tous les fans qui vont nous regarder. Déjà, on se fait une marge bénéficiaire pas mal, et puis qui se lancent dedans. Et puis après, ils voient que
ils
le projet.
Ils font des bides, quoi, parce que c'est tellement mauvais à côté du talent de l'écrivain.
Ah oui, mais voilà. Tout à fait, tout à fait.
Puisqu'on est aussi dans les séries, moi je vais en balancer une ou deux. Il y a donc Kingdom Hospital, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Ouais. Donc c'est l'histoire d'entre médecins et patients qui sont confrontés à des forces surnaturelles inquiétantes. Donc c'est construit, je crois que l'hôpital est construit sur un.
Un cimetière d'un.
Non, c'est un emplacement d'un grand incendie qui a tué, je crois, beaucoup d'enfants il y a une centaine d'années. Donc ensuite, voici ça. Je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de saisons d'ailleurs. Je crois qu'il n'y en a eu qu'une.
Je sais pas. J'avoue que j'ai regardé.
Toi, tu as lu ce livre ou pas ?
Non, pas celui-là. Non, j'ai pas pu tout lire encore. Hein. J'en ai un paquet. Gwen a vu mon étagère à Stephen King.
Oui, tout à fait.
Joli,
oui, elle est bien fournie. Hein.
Mais j'ai pas tout et j'ai pas pu tout lire. Voilà.
Donc,
surtout qu'il en ressort un par an, faut quand même noter. Oui. Qu'il ne s'arrête jamais.
Ah, ça me rappelle quelqu'un, ça, qui fait un film tous les ans.
C'est Woody.
Et ben là, voilà, quasiment un par an, si ce n'est deux, parce que des fois, tout d'un coup, il écrit un autre recueil de nouvelles.
Oui, mais c'est ça, il y a pas mal de nouvelles.
Donc là, d'ailleurs, il y a un bouquin qui va sortir qui est une espèce de suite de Shining, visiblement. Voilà. Donc à voir, à lire, quoi.
Quoi ?
Ouais.
Ça se passe dans
c'est
la dame.
C'est Johnny !
Je vous raconterai.
C'est Johnny, il est revenu.
Si c'est bien, je vous raconte.
Ils ont Cybernatus version Stephen King.
Ah oui, c'est vrai.
Et donc en série, il y a aussi Haven, une série de 2010.
Haven.
Ouais. Une petite ville encore.
C'est l'adaptation des Enfants du Maïs, je crois.
Oui, c'est ça, oui.
Child Corn, c'est une adaptation d'une nouvelle avec une saison en plusieurs épisodes, enfin plein de saisons. C'est pareil, ça part un peu en cacahuète niveau scénario. Ça devient une série américaine pour faire de la série américaine dont les gens deviennent accros parce qu'il y a les bonnes intrigues dedans, mais on s'éloigne un peu du truc. Voilà, c'est une bourgade qui rassemble dans le Maine toujours, qui rassemble des gens voilà qui ont des pouvoirs un peu
surnaturels,
et puis des disparitions, des gens qui ont, enfin pour le coup il est
avec un agent du FBI au milieu.
Oui, mais un agent du FBI au milieu qui elle est mêlée à ça parce qu'elle est le sosie d'un des personnages d'une histoire qui date de 30 ans, etc. Et donc c'est elle, à la fois c'est sa mère. C'est un peu incompréhensible, Evan. Les mystères de Evan, c'est... Voilà, tu loupes pas un épisode, sinon tu ne comprendras rien. Voilà.
C'est un peu comme un telenovelas brésilien. Si tu loupes un épisode, tu ne comprends plus rien.
Mais si tu regardes, tu ne comprends rien non plus.
Oui, déjà.
Parce qu'il ne se passe rien. Voilà. Je ne regarde pas de telenovelas brésilien. Donc voilà.
C'est à part sur certaines chaînes du câble, à mon avis, il y en a très peu. Hein, parce qu'il faut aller les chercher.
Pour
quand même.
Toi, quel est le plus gros roman, la plus grosse réussite de Stephen King alors?
Le roman absolu.
Le roman.
Ah, je peux pas dire le roman.
Il y en a qui disent que c'est ça.
Non.
Non.
Jessie. Oh putain. Jessie, j'habitais 30 mètres carrés quand je l'ai lu, à Grenoble. Et les toilettes étaient à 3 mètres de mon lit, tu vois, à peu près. Et j'osais plus y aller, je pouvais plus bouger, j'étais paralysée. Et là, ça fait partie des bouquins de Stephen King où il se penche sur la psychologie plus féminine, parce que souvent, ses personnages principaux sont des hommes, écrivains régulièrement.
Oui, souvent,
voilà.
Oui.
Ou d'ailleurs, il est très brutal sur la description de l'homme, ça fait pas de cadeau.
Oui.
Et là, par rapport aux femmes, il se lance aussi beaucoup dans la psychologie féminine, et pour le coup, il est pas mauvais. Et là, Jessie, c'est une femme d'âge mûr qui va avec son compagnon dans leur chalet au bord d'un lac dans le Maine, très isolé, et puis ils sont bien, ils lisent, enfin voilà, ils se font des petites vacances quoi. Et puis à un moment donné, monsieur est très entreprenant avec madame, mais madame n'est pas décidée. Monsieur attache quand même madame au lit par une main.
Et, jambon.
Et elle lui dit, mais arrête de déconner, j'ai pas envie, laisse-moi tranquille. Mais il s'arrête pas et elle se dit, merde, mon mari va me violer, quoi. Et donc elle lui colle un coup de pied dans le ventre, je crois, il tombe du lit et il tombe raide mort. Et la voilà qui se retrouve accrochée au lit, son mari mort au pied du lit. Elle n'est pas sûre qu'il soit mort, mais enfin, au bout d'un moment, elle se dit « ok, il l'est ». Et là, elle se lance du coup, elle n'a que ça à faire, hein, réfléchir, essayer de se libérer et réfléchir. Et la voilà qui repart dans son passé, dans cette même cabane ou une similaire. Son père, voilà, sa mère, ses histoires d'enfance où c'est assez monstrueux. Et puis des événements qui arrivent pendant qu'elle est là à essayer de réfléchir, à essayer de s'en sortir. Des choses qu'elle croit imaginer, elle ne sait pas si c'est vrai. L'angoisse, quoi. Il est monstrueusement angoissant, mais très, très, très réussi. Jessie.
D'accord.
Avec un Y ?
Non.
IE ?
IE.
Bien.
Merci pour le détail qui était hyper important.
Moi, non. Quand tu vas à la mosaïque, tu comme ça, tu pourras le dire.
Oui. Donc, The Dome est addictif. Cimetière, en vrai, est fabuleux. Qu'est-ce que j'ai adoré ? Ah oui, il y a eu un recueil de nouvelles qui est paru il y a 2 ans, je crois. Nuit noire, étoile morte. Il a encore fait quelque chose de fabuleux. Et là, il y aurait des films à faire aussi. Voilà.
Et au niveau des films ?
Si tu nous
conseilles un film pour vraiment donner l'œuvre,
je reflète le plus l'œuvre, oui, de Mr. Stephen King.
Mais j'ai pas tout vu, alors j'en sais rien, mais je pense que La Ligne verte, c'est une bonne adaptation, assez fidèle. À part celui-là, j'ai pas de. Pour l'instant, il y a pas. Voilà, celui-là colle bien, quoi.
Celui qui est le plus angoissant au niveau des films.
Bah non, parce que ça retrace. Enfin, c'est jamais aussi angoissant que les bouquins. Ouais, jamais, ça peut atteindre ce niveau-là. Je me suis retrouvée paralysée, à plus pouvoir bouger, quoi, rien qu'à lire des mots dans des pages. Donc, je sais pas si t'imagines ce qu'il faut, à quel point il faut que ce soit angoissant pour paralyser les gens, quoi. Donc, il sait faire.
Bah, c'est-à-dire que quand tu vas dans une salle de cinéma, enfin, je veux dire, il y a plusieurs personnes. Quand tu lis. T'es tout seul
avec ton imagination, ce que ça réveille chez toi.
Et
aussi.
En plus, c'est ça aussi.
Parce que lui, il maîtrise bien les angoisses personnelles et il sait bien réveiller les choses qui te sont propres. Ça réveille différentes choses chez chacun, je pense, mais il le fait très très bien. Ces histoires, elles te font te rappeler des choses pas très agréables, elles creusent un peu. Voilà, ça,
y aurait-il des messages subliminaux?
Est-ce qu'il faut lire le livre à l'envers ?
Non, je te déconseille, ça va te gâcher la fin.
Oui, tu fais pas comme dans le film documentaire La Chambre 237. Mmh, où ils avaient carrément fait le visionnage le film dans le sens normal et dans le sens inverse.
Mais c'est une espèce de légende, ils nous font ça dans tous les films pour lui, le Necronomicron et
voilà, c'est ça, je trouvais bon.
Evil Dead, tout ça, fabuleux.
Eh bien, mais donc, un petit mot de conclusion, mes chers, avant qu'on se tourne vers notre pestel le moins angoissant, il est vrai.
Bien, écoute, le mot de la fin, c'est Lisez Stephen King, parce que ça vaut le coup. Parce que c'est pas que du fantastique, c'est toujours ancré dans un récit réel excellent, où on est bien installé, l'événement qui perturbe tout, et c'est toujours, toujours excellent. Voilà. Ouais. Et regardez les films, lire. Les adaptations, parce que ça mérite d'être vu la plupart du temps, en tout cas c'est par curiosité.
Oui, déjà
on les a pas toutes citées de toute façon. Mais
oui, c'est-à-dire qu'il y a les grands films.
Il y en a
parce
une trentaine, c'est ça au moins.
C'est-à-dire qu'il y a des films faits par des grands réalisateurs, enfin du moins, qui sont reconnus, qui ont été reconnus. Et puis, évidemment, tout ce qui est téléfilm. Donc là,
téléfilm, mini-série.
Oui, voilà,
aussi,
c'est ça aussi.
Les films en plusieurs parties.
Ouais, voilà, là aussi, forcément, c'est un peu plus ardu puisque pour les trouver. Du coup.
Des fois, c'est difficile à trouver. Ouais.
Crois que, puisqu'on y est aussi, il avait fait un film, lui, Maximum Overdrive, non ? Stephen King.
Mais il en a fait plusieurs lui-même. Il a réalisé plusieurs lui-même les films, ses films. Alors, soit il s'incruste en tant qu'acteur. C'est un prêtre dans le cimetière, tu vois. Ou alors, cailloux. Soit carrément, il le fait lui-même. Par exemple, Shining, il a estimé que c'était pas fait assez bien.
Oui, mais ouais, ça c'est normal.
Alors, je sais pas, il est scénariste, il est pas réalisateur, mais il est scénariste souvent. Enfin voilà.
Oui,
il...
mais voilà, c'est ça. Ouais, moi, c'est scénariste après.
Allez, le pestel.
Alors, cette semaine, il y a 4 films. Donc voilà, le grand blockbuster, le monde de l'écologie, le film français et enfin un documentaire. Alors évidemment, on va commencer par le
documentaire.
Non, par le blockbuster. Donc Thor
2.
Oui. Comment on dit chez les tortues, le tortue.
Donc,
voilà, c'est le tortue.
C'est pas Thor 2, c'est le monde.
Le monde des ténèbres.
J'ai pas vu le 1.
Alan Taylor. Oh, il est trop bien.
Je m'en passe bien volontiers.
Il est trop trop bien. Non, je plaisante. Non, évidemment. C'est un gros divertissement.
Visuellement très réussi.
Et puis voilà, puis en plus c'était Kenneth Branagh, donc avec vraiment l'œuvre shakespearienne.
L'acteur vaut le coup, d'accord.
Oui, aussi. Mais toi aussi, plus du sexe, le
chevelu.
Tu aimes le blond ?
Celui qui fait tort ou celui qui joue les elfes démoniaques ?
Loki. Il y a Kenneth Branagh dedans.
Oui, mais Kenneth Branagh, c'est le réalisateur du premier.
Ah, je comprends rien.
Mais non, parce qu'il avait fait Frankenstein. Et donc,
je vais aller faire la sieste.
C'est ça. Et donc voilà, donc, évidemment, puis c'était dans toute la mouvance des Avengers, puisqu'évidemment, là aussi, il y a Loki et le méchant des Avengers. Donc voilà, c'était un peu ça. Donc le par deux, évidemment, de nouveau, on retrouve le héros et son héroïne. Hein.
Son marteau?
Oui.
Ah, c'est pas Natalie Portman. Je sais pas ce qu'elle fait là-dedans.
C'est-à-dire que pour l'occasion, dans le premier, il était viendu sur Terre.
Et elle,
et puis là, pour l'occasion, il l'amène voir ses parents.
C'est voilà, beau,
c'est,
non
c'est, Non, c'est beau. Ça veut dire que oui, c'est ça.
Qui est non éduqué d'humour, je crois.
Oui,
blague.
Oui, oui.
À la Iron Man.
Voilà. Voilà. Ensuite, il était une forêt. Donc de monsieur...
Ah mais il repasse parce qu'il
il
est déjà
repasse,
passé,
oui, voilà.
C'était une avant-première.
Ouais, donc de monsieur de Luc Jacquet, hein, donc la marche de l'empereur.
Quand même.
Oui, tout à fait. Donc
sauvant nos forêts.
Et le renard et l'enfant.
Et la belette. Ah non.
Non, on entend le loup, le renard et la belette, mais là c'était il était une forêt. Donc évidemment un superbe documentaire sur le milieu de la forêt.
Ma fille l'a vu et a été subjuguée.
Oui, mais ça ne m'étonne pas. Il y a vraiment de très belles images et une très belle histoire. Ensuite, oui, non,
une histoire, pas bon.
Non, mais la façon de faire le documentaire, mon bon monsieur, c'est pas... Il était une forêt. Bah, en même temps, c'était Il était une forêt. On commence comme ça.
Pour sensibiliser, je pense, aussi le spectateur sur le massacre de la forêt tropicale.
Ouais, oui, tout à fait.
Ou les forêts primaires, en général.
Oui, bah, notamment en ces années où il va y avoir bientôt la Coupe du Monde au Brésil, ce serait pas mal qu'il s'intéresse là aussi pour l'occasion. Comme on avait fait pour les droits de l'homme lors des Jeux Olympiques de Pékin, avec sans doute le même résultat. Donc ensuite, il y a le film français Violette, hein, de Martin Provost, pas Franck, hein, rien à voir, même s'ils ont été une belle coupe. Donc Violette, donc,
c'est pas avec
Emmanuel Deveau et Sandrine Kiberlin.
Elle arrête pas d'être là, on la voit partout.
Oui, oui.
Kiberlin aussi. Hein.
Oui, bah aussi, oui, oui. Bah, là, c'est vraiment un hommage à Violette Leduc, hein, qui est hélas un auteur et très très mal connue puisqu'elle avait vécu dans l'ombre
de Simone
de Beauvoir. Voilà, puisqu'il y a vraiment un lien très affectif et très intense entre les deux femmes et sur de nombreuses années. Et je pense que ça a été aussi le gros souci, c'est qu'elle a vraiment vécu dans l'ombre de Simone et en même temps elle a porté Simone aussi. J'aime bien
en voiture, Simone.
C'est ça, merci. Alors, par contre, il y a des critiques qui disent que la véritable Violette était quand même
plus belle,
plus moche que Emmanuel de
Pourtant, elle s'est bien dans Lady.
Oui, oui, non, mais d'accord.
Emmanuel Devaux,
oui,
c'est quand même pas la beauté.
Oh même.
Bon, elle a du charme.
Elle porte bien son nom, tu veux dire, c'est ça? Bah non, elle a un charme. Hein.
Bon, chacun le sien.
Oui, oui. Donc
mais le film quand même porte plus sur le début de la carrière,
oui,
de,
oui,
que sur la gloire de.
La gloire de mon père?
Non, ça c'est pas ça.
C'est Marcel Pagnol.
Oui. Ah, sur les années formatrices, c'est ça. Oui. Que sur les heures de gloire de Mrs. Violette le Duc.
Voilà, bon, pas tant de succès. En plus, c'est...
Que t'en sais à l'époque, et tu étais pas?
Mais si, j'y étais.
Mais si, j'y étais, tu bien.
Enfin, attends, ouais. Attends, mais c'est à moi qu'elle a parlé de son homosexualité, ainsi que de son avortement. Alors par contre, il dure 2h19.
Ah.
Non. Alors, j'espère qu'il y aura peut-être.
Tu as bien le temps de. Emmène un roman.
Oui, c'est ça. À Stephen King, par exemple.
Oui.
Alors là, tu mélanges tout. Là, il n'y a plus. Oh, on va plus rien comprendre.
Je comprends pas. Qu'est-ce que Simone de Beauvoir vient faire dans Stephen King?
Mais il peut. Il y arriverait s'il veut.
Ah oui. Et oui. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que pour une fois, il sorte un peu de son Maine et qu'il vienne.
Bah voilà, des fois, il va en Floride.
Dans la vieille. Oh waouh.
Qui viennent dans la Corrèze.
C'est loin, la Floride.
Mais oui, dans la Corrèze, hein, dans l'Arzac.
Quais, dans les quais, en face de Miami, là. Le roman, il prend une ambiance totalement différente.
Oui, c'est un petit côté à Miami.
Voilà, un peu. Il y a Dexter qui vient lui rendre visite. Ouais, alors, un blockbuster, un documentaire, un film français, c'est tout.
Et en fait, en dernier, il y aura donc. Merci. Donc, le lundi 25 novembre.
Une soirée spéciale.
Non, à 14h, c'est pas une soirée, monsieur. Dans le cadre de la journée. Contre les violences faites aux femmes. Donc, et en collaboration avec les collectives, il y aura donc le film « Les violences conjugales en guise d'amour » de François. Parce que je me pourrais faire pour le nom de famille.
Z.
Oui, Silovitch. Donc, tout un documentaire, évidemment, sur les violences.
Il y a une journée sur RDY, d'ailleurs. Il n'y a pas une...
C'est le 25 novembre.
Voilà, mais sur RDY, il y a une journée spéciale.
Donc, il y a interdit de passer du noir des cires.
Voilà. Dimanche matin, il y a eu un hommage à la messe punk. Voilà.
Ah oui, tout à fait.
Pour
fabuleusement
Quentin
délicat. Ouais. Enfin, pas un hommage à Quentin, c'était juste une reprise punk d'une chanson de Quentin.
Ouais.
Voilà.
Qui d'ailleurs va sortir son album.
Oui, tout à fait. Bah, peut-être pour cette journée-là, d'ailleurs, ce serait.
Ah oui.
Ce serait
occasion.
Subtil.
Là, très ouais. Subtil, très fin.
Ouais. Ça sera peut-être tape à l'œil.
Oui. Ça. Et puis, ouais. Je pense qu'en plus,
vous,
monsieur est un trignant.
Vous n'allez pas mieux que la messe punk, franchement.
Sois sérieux.
Oui,
qu'est-ce que c'est alors? C'est tout.
C'est tout. Bah, d'accord. C'est quatre films. Thor, Il était une
non,
forêt, Violette.
Non, mais documentaire, il passe qu'une fois. À 14h, c'est ça.
Mmh, oui, tout à fait.
14h le 25 novembre.
Ouais, tout à fait. Donc, et il y aura évidemment. Il sera suivi d'un échange et autour d'un verre. Il y a un seul verre. Attention, il y a
un verre pour tous.
C'est le fameux...
Verre de l'amitié.
Non, le verre solitaire.
Ça peut être le verre de l'amitié et le verre solitaire aussi.
Oui, bah, un verre.
Avec du vin d'orge.
C'est ça.
Bon, allez, fais la bascule. Donne-nous le sujet de la semaine prochaine.
Bah, sinon, tu me le donnes, je le fais.
Eh bah, ben voilà. Eh bah, ben, ce sera une musicale. Voilà.
Une émission musicale la semaine prochaine.
Pas d'accord.
Une émission musicale à quel propos?
Sur la comment ça film la musique dans les cinémas asiatiques.
Donc la semaine prochaine dans Arrête ton cinéma, une émission musicale sur le cinéma asiatique sur 107.5 et sur www.rdwa.fr.
Voilà. Et bien sur ce, mes chers auditeurs et chères auditrices, je vous remercie ainsi que Carrie de nous avoir. Fait partager son amour de.
Elle a son avion pour le Maine.
Voilà, je retourne dans le Maine tout de suite pour brûler mon bahut.
Mais tout à fait.
J'y vais.
Oh non, mais c'est très bien. C'est très
je
bien.
Vous remercie, chers amis, de m'avoir invité dans votre émission. C'était fort agréable pour une fois de faire de la radio à Jeun. Voilà. Et donc, on n'est pas à Jeun. Ah, je n'ai pas compris. Donc, de faire de la radio avec vous, c'était très sympathique. Et merci. J'espère que les auditeurs ont aimé nous écouter.
Bien, je vous remercie.
Bon apéro.
Ciao. Et passez une bonne soirée.
work all day.
This is Sparta!
The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
You talking to me?
Say hello to my new friend!
I want to know.
I love the smell of napalm in the morning.
Life is like a box of chocolates.